rock.
Classique 21, le moment M. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte le moment qui est à l'origine de la chanson Sitting on the Dock of the Bay d'Otis Redding. Été 1967, Walnut Grove, baie de San Francisco. Impossible d'oublier la première fois où il a débarqué à Memphis pour enregistrer. Il n'avait encore rien d'une légende, juste ce regard nerveux et cette voix qui semblait sortir d'un autre temps. Un mélange de prière et de feu. Moi, Steve Cropper, je l'ai vu arriver sans imaginer que je deviendrais un jour son guitariste et son co-auteur. Dès la première note, j'ai su qu'il ne passerait pas inaperçu. À l'époque, on enregistrait jour et nuit avec Booker T, Sam et Dave, Wilson Pickett. La soul vivait dans la sueur, la route et les studios sans fenêtres. Otis s'est fondu là-dedans, comme s'il y était né. Très vite, il a imposé un truc que les autres n'avaient pas. Pas seulement la puissance, mais la conviction. Il ne chantait pas pour séduire. Il chantait avec une sorte d'urgence, comme si c'était une question de survie émotionnelle. On a enchaîné les disques, les tournées, les concerts où le public hurlait dès les premières notes de Respect ou de I've Been Loving You Too Long. Mais ça restait notre monde. Les salles noires du Sud, les radios spécialisées, les circuits R&B, on pensait que c'était déjà énorme. Pour lui, c'était pas assez. Il disait qu'il voulait chanter pour tout le monde. À l'époque, ça paraissait presque naïf. Et puis, à l'été 1967, on nous a invités au Monterey Pop Festival. On n'était pas vraiment sûr de ce que c'était. Un rassemblement de hippies, de rockers blancs, de groupes psychédéliques. On parlait de Janis Joplin, de Jefferson Airplane, des Mamas and the Papas, des Who, de Jimi Hendrix. C'était pas notre circuit, pas nos scènes, pas notre public. Certains craignaient qu'on soit là comme un numéro exotique. Le soir du concert, on est monté sur scène au milieu de chemises colorées et d'une odeur d'herbe. On était sur notre planète. Otis n'a pas semblé impressionné. Il a empoigné le micro et les cuivres ont lancé les premières mesures de Shake. Et là, j'ai compris qu'il allait tout renverser. Le public, habitué aux guitares saturées, aux solos de batterie et aux voix planantes, découvrait quelque chose de brut, de direct, d'incandescent. Je les ai vus se lever, s'approcher, hurler son nom sans même savoir qui il était. Ce soir-là, il a compris que sa musique pouvait franchir des frontières qu'on croyait fermées. Derrière cette victoire, il y avait déjà une fissure. Depuis des mois, sa voix le trahissait par moments. Il chantait avec une intensité qui épuisait ses cordes vocales. On devait adapter des tonalités, réduire certaines dates. Et lui, qui vivait chaque chanson comme un combat, commençait à s'inquiéter. Il me confiait qu'il ne pourrait pas continuer à hurler éternellement sa vérité dans un micro sans que son corps lui présente l'addition. L'opération est arrivée comme une pause forcée. Il n'aimait pas ça. Rester loin de la scène, se taire, laisser le corps guérir. Mais le silence l'a obligé à réfléchir. Il se mettait à parler plus doucement, à écouter sa respiration. Il disait qu'il aimait encore chanter fort, mais qu'il voulait aussi chanter autrement. Il ne savait pas vers quoi, mais il sentait que quelque chose devait changer. Après Monterey, après les tournées, après les studios étouffants de Memphis, il a décidé de partir sur la côte ouest, près de San Francisco. Besoin d'une pause. Il a trouvé ce houseboat, amarré à Sausalito, un vieux bateau posé sur l'eau calme avec juste assez de place pour dormir, regarder le ciel et écouter les mouettes. Je ne l'ai pas accompagné tout de suite. Le peu de nouvelles qu'il envoyait disait qu'il passait du temps à juste regarder l'eau monter et descendre. Il marchait le matin, s'asseyait à midi, écrivait des bribes le soir. Quand il est revenu à Memphis, j'ai tout de suite vu qu'il avait changé. Son regard était moins contracté, sa voix plus posée. Il n'était pas guéri de tout, non, mais apaisé d'une manière nouvelle. Il a attrapé une guitare acoustique, chose rare pour lui, et il m'a joué ce qu'il avait commencé là-bas. Une mélodie douce, retenue, qui semblait flotter au-dessus du sol. Il m'a raconté qu'il s'était assis sur le pont face à la baie, sans guitare, juste en fredonnant. Il aurait murmuré des phrases toutes simples, presque, comme une respiration.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes.
Assis au soleil du matin, je serai toujours là quand viendra le soir. Il n'a parlé ni de couplet, ni de cuivre, ni de montée, juste d'une ambiance. Quelqu'un qui s'assoit, qui regarde le monde passer, sans chercher à le rattraper. Je lui ai demandé, tu veux qu'on fasse quoi? Il a haussé les épaules. On verra. C'est peut-être rien ou peut-être autre chose. Mais je crois que c'est moi maintenant. Alors on s'y est mis tous les deux, une fois rentrés au studio. Lui à la voix, moi à la guitare et aux arrangements. Je ne savais pas encore que ce serait l'un de ses derniers morceaux. Je savais juste qu'il venait d'ouvrir une porte que personne n'avait encore franchie avec lui. Ce passage à Sausalito sur la baie de Richardson et ce moment à l'origine du morceau « Sitting on the Dock of the Bay » qui sortira début 1968 sur l'album du même nom d'Otis Redding. « Sitting on the Dock of the Bay » tranche radicalement avec l'image habituelle d'Otis Redding. Le morceau marque un véritable tournant. Après des années à chanter avec la rage et la ferveur d'un homme qui voulait tout donner, Otis Redding semble ici s'abandonner à une forme de lâcher prise. Plus de lutte, plus de conquête. Juste un regard posé sur le monde, tranquille, presque fataliste, comme en témoigne ses paroles.
So I'm just gonna sit on a dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on a dock of the bay, wasting time.
Alors je ne fais que m'asseoir sur le quai de la baie, observant la marée repartir. Je suis assis sur le quai de la baie, à perdre mon temps. C'est comme si, pour la première fois, il acceptait de ne rien forcer. La chanson respire le calme, la simplicité, le détachement. Elle témoigne d'une évolution intérieure, d'une envie de ralentir, d'explorer une autre manière d'être soi, plus apaisée, plus universelle. Ce virage annonçait sans doute une nouvelle phase de sa carrière, plus ouverte, plus introspective. Une phase que le destin ne lui laissera pas le temps d'accomplir. Musicalement, c'est tout aussi surprenant. Pas de cuivre, pas de montée gospel, pas d'explosion vocale. La structure est dépouillée, guitare, basse, batterie légère, touches discrètes de piano. Steve Cropper construit un arrangement sobre et aéré, chose presque inédite chez Otis. La rythmique est lente, balancée, presque marine, avec un tempo qui donne l'impression de vaciller doucement, comme un ponton sur l'eau. Même la voix d'Otis est différente, moins rugueuse, plus posée, parfois proche du murmure. On est entre la soul, la folk, et un début de pop contemplative. Le morceau est enregistré le 22 novembre 1967 à Memphis, mais n'est pas finalisé. Quelques jours plus tard, le 10 décembre 1967, Otis Redding monte à bord d'un petit Beechcraft H-18 avec 5 membres de son groupe, les Barkays et leur tour manager. Il quitte Cleveland sous la neige pour rejoindre Madison, où un concert les attend le soir même. L'avion est minuscule, sans confort. Ils sont fatigués, mais de bonne humeur. Otis plaisante, les musiciens somnolent. À l'approche du Wisconsin, la météo tourne mal. Brouillard épais, neige fondue, visibilité réduite. À 15h28, alors qu'ils se préparent à l'atterrissage sur l'aéroport de Truax Field, l'avion disparaît des radars. Il s'écrase dans le lac Monona, à moins de 5 km de la piste. Sur les 8 personnes à bord, un seul survivant, Ben Collet, le trompettiste. Il dormait et n'avait même pas attaché sa ceinture. Le choc l'a projeté hors de l'appareil et malgré l'eau à 2 degrés, il a réussi à se maintenir à flot, accroché à un coussin de siège jusqu'à l'arrivée des secours. Tous les autres, y compris Otis, sont retrouvés sans vie, piégés dans la carcasse ou emportés par le froid. À 26 ans, Otis Redding laisse derrière lui une femme, 3 enfants et un morceau inachevé. Le dernier couplet n'étant pas terminé, la fin du morceau sera sifflée, ce qui accentue cette impression de calme étrange. Beaucoup y verront une coïncidence tragique, d'autres une prémonition. Mais une chose est sûre, cette chanson qu'il pensait différente devient son héritage le plus universel. Le single sort en janvier 1968 à titre posthume. Le succès est immédiat, numéro 1 au Billboard Hot 100. La chanson emporte le Grammy Awards de la meilleure performance R&B. Elle devient première chanson posthume à atteindre la tête des classements américains. Quelques semaines plus tard, l'album de Doc of the Bay sort et sera le plus gros succès commercial de sa carrière. Une carrière qui ne faisait que débuter et qui s'est brutalement interrompue dans les eaux glacées du lac Monona.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of the bay, wasting time.
Retrouvez tous les épisodes de cette séquence sur l'app RTBF Actu.
RTBF Classic 21, You Rock.